un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
En 2007, il y avait bien eu une fiction diffusée à la télévision française et inspirée de ces faits qui s'appelait Les Diablesses et avait connu un certain succès. Mais jusqu'à ce jour de mai 2013, sur France Culture, jamais aucune des anciennes du Bon Pasteur, aucune de ces jeunes filles condamnées sans jugement, traitées comme des rebuts de la société et bouclées derrière les murs du pensionnat, n'avait accepté de témoigner, de raconter ce qui leur était arrivé au long de toutes ces années au sein de cette congrégation qui entendait rééduquer des jeunes filles en soi-disant perdition avec des méthodes musclées. C'est après avoir rencontré un éducateur, Jacques Trémaintin, qui s'y était intéressé de près, que Leïla Djitli, bien connue des auditeurs et auditrices des Pieds sur Terre, a eu vent de cette affaire. Elle lui consacre alors, en 2013, un fameux épisode de Sur les Docs, l'émission de documentaire de notre chaîne à l'époque, qu'elle appelle « Mémoire de mauvaise graine » et qui fit grand bruit. On revient aujourd'hui avec Leïla Djitli et Stéphanie Thomas sur cette histoire qui fit ensuite couler encore plus d'encre avec le récit de deux anciennes parmi les quelques 300 à s'être regroupées pour porter plainte. Des années plus tard, elles n'ont rien oublié des ravages de cette bigoterie hypocrite, brutale et obsédée par le sexe. Je précise qu'il y a 2 ans, une commission d'enquête sur les abus commis a été lancée par la congrégation elle-même, mais qu'elle est contestée par les victimes.
Alors, je m'appelle Marie-Christine et j'ai 75 ans. Je suis née à Nantes, d'une famille bourgeoise du côté de mon père et ouvrière du côté de ma mère. Ils avaient tous les deux 22 ans quand je suis née. Alors mes parents étaient mal assortis, ma mère a été accusée d'épouser mon père parce que c'était un fils de famille, mais bon, ils étaient aussi irresponsables l'un que l'autre. Ma mère ne voulait pas m'élever, elle ne se sentait pas capable, et mon père encore moins. Donc j'ai jamais vécu avec eux. On m'a confié à l'âge de 12 jours chez ma grand-mère maternelle. Alors, ma grand-mère, c'était une femme qui était née en 1884, donc elle était très âgée, pas vieille France, mais bon, une vieille dame. Elle avait 75 ans quand je suis née, et elle s'est retrouvée avec un petit bébé de 12 jours, dans un petit appartement minuscule, pas de toilette, pas de salle de bain, pas d'eau courante, les logements d'après-guerre, hein. Et malgré ça, ma grand-mère a quand même accepté de me prendre. Autrement, je ne sais pas où j'allais. Alors, mes parents s'entendaient comme chien et chat. Mon père était très calme, ma mère était très énervée. Donc, ma mère gueulait sans arrêt sur mon père, qui ne disait rien. Ils ont divorcé au bout de 10 ans. Ils ont divorcé en 1958. Et j'ai été confiée, l'autorité parentale, à ma grand-mère. Je m'emmerdais avec elle, c'était une dame... Elle était triste finalement parce qu'elle avait vécu 2 guerres et elle avait perdu 2 enfants en bas âge. C'était une grand-mère qui était triste. Moi, je demandais qu'à rigoler, à m'amuser, mais elle ne le comprenait pas. J'en avais marre de m'ennuyer, de ne pas avoir de copine parce que, bon, fallait pas que je sorte. Je pouvais pas écouter de musique parce que ça lui cassait la tête. Il y avait le rock'n'roll, il y avait Elvis Presley, il y avait tout ça. Et moi, j'adorais. Bon, un coup de chance, le poste à Galène, là, le poste avec le gros bouton, était resté branché sur la BBC, ce qui me donnait l'opportunité d'avoir les chansons anglaises et américaines. Ça, c'était super. Donc, je mettais ça à tue-tête et ma grand-mère se frappait la tête dans les murs en disant « Arrête cette musique de sauvage ». J'avais 14 ans, c'est là que j'ai commencé vraiment à être infernale. Je voulais pas me laver non plus, j'étais particulièrement sale. Mais pour aller se laver dans un grenier quand il y a 0 degré, on n'est pas vraiment tenté, hein. Et puis je volais de la nourriture dans les commerces parce que j'avais faim. Ma grand-mère avait pas beaucoup d'argent et la gamelle c'était maigre. Et puis je voulais pas aller à l'école. J'étais renvoyée d'absolument de toutes les écoles où je passais. J'ai même été renvoyée d'une maternelle. Après, je me suis fait renvoyer de 2 écoles primaires et de 3 lycées. Toujours pour les mêmes motifs. Insubordination, insolence envers les professeurs. Et on m'a fait passer mon certificat d'études parce que, bon, je faisais rien à l'école. Sauf que je ne l'ai pas eu parce que j'ai refusé de chanter la Marseillaise. Parce que c'est un chant révolutionnaire qui ne me plaît pas du tout. Alors, il y a un moment où ma mère a dû en avoir marre et puis ma grand-mère a dû se plaindre et bon, elle n'avait pas tort, finalement, elle n'en pouvait plus. Et ma mère a fait appel au juge des enfants qui a décidé que je ne pouvais pas rester dans mon milieu familial, mais je n'étais pas présente à mon procès. Parce que finalement, c'était un procès où j'étais condamnée par défaut et je n'avais pas d'avocat pour me représenter. Personne, ni ma famille. Ma mère attendait que quelqu'un veuille bien la débarrasser de ma présence. Pour de bon. Et j'ai été placée au centre d'observation. J'avais 15 ans. On était observés du matin au soir et pendant notre sommeil. On avait une éducatrice laïque, on avait aussi les sœurs. Mais la nuit, je ne sais pas qui passait dans les dortoirs, parce que moi, sur ma feuille, c'est marqué « Dors paisiblement » avec un ours énorme qui s'appelle Maxime. Et comme je ne voulais rien faire de la journée, c'est marqué « Ne fais rien, observe les petits oiseaux ». Entre-temps, j'ai subi le fameux examen gynécologique au cours duquel les filles étaient violées, hein. Toutes les filles s'en souviennent. C'est comme si c'était hier, je revois la pièce, la sœur et le médecin. Sans gants, sans spéculum. Au doigt. Un viol. C'était pour voir si elles étaient vierges. Et il y avait la sœur qui était à côté de lui. Et on l'appelait la sœur guette au trou. C'était une guerre de triage. Hein. Les filles arrivaient, elles étaient étudiées et observées pendant 6 mois. Et suite à cet examen, elles étaient placées dans tel ou tel pensionnat de bonnes sœurs qui leur correspondait soi-disant le mieux. Alors, au bout de 6 mois, on m'a envoyée à Orléans. Moi, pour moi, j'allais dans un bahut comme les autres, sauf qu'il était tenu par des religieuses. Mais bon, je me suis dit, elles vont me foutre dehors exactement comme les autres. Alors, quand je suis arrivée à Orléans et que cette énorme porte s'est refermée sur moi, j'ai vu ce cloître et ces religieuses. Là, je me suis dit, ma petite fille s'est mal barrée. Et j'ai commencé à avoir peur. C'est une peur incontrôlable. C'est un danger qui va arriver, mais qui n'est pas concret encore. Et j'avais raison d'avoir peur. Alors, quand je suis arrivée à Orléans, c'est le silence et l'odeur d'encens qui m'ont frappée. Il y avait le petit silence et le grand silence. On n'avait pas le droit de se parler entre nous, ce qui fait qu'on n'avait pas d'amis, on ne pouvait pas échanger. Et on nous avait dit, si vous dites pourquoi vous êtes là, on lit votre dossier devant toutes les filles, pour que vous ayez honte. Et finalement, on aurait mieux fait d'accepter que les dossiers soient lus, parce qu'on aurait su que les filles, elles n'avaient rien fait, et nous non plus. Hein. Mais c'était une menace pour nous faire taire. Hein. D'ailleurs, si on se faisait une copine, aussitôt, on était lesbiennes. Hein. Vous êtes deux, le diable est au milieu. Et là, j'ai vu une bigoterie incroyable. Il fallait prier le matin en se levant, il fallait faire 15 prières par jour. Et j'en revenais pas, parce que moi, je connaissais ni le Notre Père, ni Je vous salue Marie. J'ai été baptisée, mais je n'ai fait ni confirmation, ni communion solennelle, parce que j'ai refusé d'aller au catéchisme et je me suis fait mettre à la porte encore une fois. Moi, je ne suis jamais allée à confesse parce que j'avais pas fait de communion solennelle, donc j'étais indigne de me confesser. Et un jour, j'ai voulu m'avancer avec les copines pour prendre l'hostie, parce que j'ai dit tout le monde y va, je vais y aller. Bon, on m'a attrapé par les épaules et remis à ma place. Non, tu n'es pas digne de notre Seigneur. Alors, les fêtes de Noël, c'était terrible pour moi qui ne suis pas croyante. Il y avait 2-3 heures de messe, quoi. On mettait le petit Jésus dans la crèche, enfin bon, ça n'en finissait pas. Il y avait les sœurs auxiliaires qui étaient en noir, avec un voile noir et un petit bandeau blanc. Et il y avait les mères supérieures qui étaient toutes en blanc. Voile blanc et puis robe un peu beige. Alors, elles frappaient, elles avaient la main leste. Particulièrement notre gentille sœur Angelina, à Orléans, qui frappait les filles sauvagement. Elle a failli en tuer une devant nous. Elle lui a attrapé la tête et elle l'a cognée sur le lavabo jusqu'à temps qu'il y ait du sang partout. On était 20 témoins quand même. Et c'est pas la seule qui a été frappée comme ça. Les filles étaient frappées sur le lit, elles relevaient leur chemise de nuit et la sœur les frappait avec un bâton. Pour des prétextes futiles, soit qu'elles avaient répondu, soit qu'elles voulaient pas aller travailler, soit qu'elles avaient traîné à faire leur lit, enfin, tous les prétextes étaient valables pour leur cogner dessus. On était là pour apprendre à se soumettre, c'est tout, mais au point de vue éducation, il n'y avait aucune éducation, rien, à part tais-toi, prie, repens-toi, c'est tout ce qu'il y avait, vous êtes des traînées, des mauvaises filles, vous finirez dans le caniveau, c'est tout ce qu'on avait comme éducation, parce que l'école étant obligatoire que jusqu'à 14 ans, les filles qui rentraient après 14 ans, bon, si elles étaient très douées pour les études, on pouvait les envoyer à l'extérieur ou à l'intérieur de la congrégation où les profs venaient. Dans le meilleur des cas, c'était un BEPC, c'est-à-dire classe de 3e, ou sténodactylo, 3 ans pour obtenir son CAP. Mais en dehors de ça, il n'y avait rien. Et dans ma section, il n'y avait que deux filles qui allaient en cours. Moi, je suis allée en cours pendant très peu de temps, parce que bon, on m'a encore mis à la porte. Et après, on a essayé de me faire bifurquer en section sténo-comptabilité, et là aussi, on m'a mise à la porte. J'ai un problème d'autorité, je n'aime pas obéir et je n'aime pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Après avoir été renvoyée du pensionnat d'Orléans, on m'a mise aux Dames Blanches à Nantes, qui était soi-disant une maison de correction. Bon, là, c'est pareil, ça n'a rien donné. On m'a mise dehors, mais on m'a mise dans un foyer de jeunes filles à Rennes pour me faire travailler. Et au bout de quelques mois, j'ai travaillé sans être payée. Et un soir, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai pris mes clics et mes claques. J'ai mis mon drap autour de la gouttière. Je suis descendue et personne ne m'a revue. J'avais 17 ans et demi, presque 18 ans. J'ai l'impression que pendant 3 ans, j'ai été enterrée au fond d'un trou et que toute l'actualité s'est déroulée sans que je participe et sans que je sache quoi que ce soit. J'ai un trou de 3 ans dans ma vie, c'est comme si j'étais restée dans le coma, quoi. Je pense que ça a influé sur tout mon comportement d'adulte. À tous les niveaux, bon, j'ai bon caractère, je suis quelqu'un de gentil, il n'y a pas de problème, mais je meurs avant qu'on m'attaque. Et puis bon, je suis claustrophobe, j'ai une phobie médicale, je ne peux pas supporter un examen médical, je ne veux pas qu'un médecin me touche, je ne me déshabille jamais devant un médecin. Et j'étais voir un psy il y a quelques années, et je lui avais raconté un fait qui était un petit peu troublant, c'est-à-dire que sur une route de campagne, je suis tombée sur un chien qui errait, et comme j'aime beaucoup les animaux, je me suis dit, mais à qui est ce chien? Et il y a un tracteur qui s'arrête et je lui dis, monsieur, est-ce que vous savez à qui est le chien? Oh, il dit, ça doit être d'une ferme par là. Il dit, je vais le prendre. Il attrape le chien, pof, il jette dans son tracteur. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Je lui dis, vous rendez compte de la façon dont vous traitez cet animal? Et il reprend le chien, il jette dans ma voiture. Et là, ben, j'avais une arme dans ma voiture, donc je lui ai collé sous le nez. Ça l'a calmé, mais moi, j'étais pas du tout énervée, mais j'ai eu comme un flash. J'ai dit, je peux pas laisser faire ça. Alors, j'ai jamais fait confiance à personne. Il y a qu'une seule personne à laquelle je fais confiance, c'est moi. Alors, mes enfants, bah, j'ai jamais voulu qu'ils restent à l'étude, qu'ils mangent à la cantine. Aucune sortie scolaire. Pas de colonie de vacances. Rien. C'est-à-dire que partout où ils allaient, sans ma présence, ils étaient en danger. Mais ça, c'était inconscient, hein. J'ai commencé à raconter mon histoire, enfin mon triste séjour à la congrégation il y a 5-6 ans. C'est venu quand même suite au film irlandais Magdalene Sister et Les Diablesses. Je me suis reconnue dans les deux films. J'ai tout retrouvé. Les maltraitances, les coups, les humiliations, tout, tout. Je suis d'abord allée sur Google et je suis tombée sur un forum. Et là, j'ai lu pendant presque toute une nuit les témoignages des anciennes. Ça m'a effarée. Et je me suis dit, on ne peut pas laisser ça. C'est pas possible. Voilà, on a pris contact les unes avec les autres et on a commencé à bouger, c'est-à-dire porter plainte contre la congrégation et contre l'État. Et on attend surtout qu'on nous rende notre honneur, parce que pendant toute notre vie, on est passé pour des traînés, même maintenant. Parce que les gens de notre génération, qui connaissent un petit peu, disent bien que toutes les filles qui sont passées par là sont des traînées, des filles de mauvaise vie, des filles qui couchaient avec toute la ville. C'est vraiment une réputation épouvantable. Et je pense que si les gens connaissaient le passé criminel de cette congrégation, je pense qu'elle pourrait fermer ses portes.
Je me prénomme Evelyne. J'ai 76 ans. Je suis née près de Chartres et je suis d'une famille de 4 enfants. Papa, c'était un agriculteur en Bretagne. Et maman, elle était à la maison. Elle s'occupait de nous ou elle allait travailler avec mon père dans les champs quand il y avait besoin, que ça pressait. Au niveau de la religion, on était baptisés, la communion, la confirmation. Je suis allée jusqu'au certificat d'études, à l'école catho, quoi. Après, ça s'est gâté, je suis allée ailleurs. Il s'est passé que j'ai été violée par mon voisin qui était derrière chez moi et j'avais 11 ans. Il avait deux grands garçons qui étaient mariés, il avait des petites filles, il avait... Voilà, mais bon. Il m'avait dit, maintenant, il ne faut rien dire parce que si tu dis quelque chose, tu tues tes parents. À 11 ans, réfléchis pas. Hein. Tous les viols et toutes les fois qu'il m'appelait parce qu'il fallait que je vienne, parce que moi, j'avais peur pour mes parents, puis pour moi aussi, parce que c'est quand même qu'une petite fille. Ça a duré de 11 ans à 14 ans. Et puis certainement qu'un jour, j'ai dû refuser ou je sais pas ce qui s'est passé. Et ce jour-là, il est allé au café et il a raconté tout ce qui me faisait subir. Du jour où il a été questionné par la gendarmerie, tout de suite, il a été emmené à la prison de Chartres. Il y a eu un procès où moi j'étais témoin. Lui, il s'est tapé 8 mois de prison ferme. Il a été incarcéré sur le champ. Je sais qu'il y a eu un grand article sur le journal et on se moquait de moi. J'étais la pute, carrément. Hein, parce qu'il est dit dans le rapport de gendarmerie que si l'occasion se représentait, j'hésiterais pas. Coucher avec les mecs. Mes parents, ils ont été... questionné par la gendarmerie. Pour eux, c'était pas possible que moi, j'ai fait ça. Et moi, dans l'histoire, on m'a emmené à la DAS à Chartres. Parce que soi-disant que j'étais en danger moral. À l'époque, il y avait l'ordonnance de 1958 qui m'a été appliquée, on va dire. Et 1958, c'était l'adolescence en danger. De là, on m'a emmené au centre d'observation pour faire des tests et puis nous examiner, on est bien, on n'est pas bien, on est grosse, on est moche, on est placé par les juges pour enfants qui avaient la toute puissance, qui n'avaient de compte à rendre à personne, même pas au ministère de la Justice. Alors on a décidé que j'allais au Bon Pasteur du Mans. À l'époque, j'avais 16 ans. Alors, c'est une maison de correction et c'était l'horreur. On n'avait aucun droit, on n'avait aucune liberté, même pas d'écouter de la musique, même pas de livres. On était 38. Alors on dormait dans des grands dortoirs, mais c'était séparé par des cloisons, mais on regardait par-dessus, on voyait les autres filles. Hein. La toilette, c'était tous les jours, mais la figure et les bras. Et le reste, ça se passait dans des cabines. Il fallait pas qu'on voit qu'on chatouillait Minette. Ah, c'est pas bien vu, sauf pour la bonne sœur.
Mais non.
Bah. Moi, j'y ai eu droit, mais elle l'a fait qu'une fois, mais elle n'a pas fait deux. Hein. Il y avait les serviettes hygiéniques tricotées, comme les culottes. Tu tricotais tes culottes. Enfin, tu avais droit à une culotte par semaine. On restait dans notre sang, comme ça. Bien sûr, ça séchait dans la journée, mais c'était comme ça. Tu avais droit à deux serviettes par jour. Et c'était pour celles qui avaient des fortes règles. Voilà. Alors, on essayait de garder le maximum de temps jusqu'à le milieu d'après-midi, parce que bon... Mais si tu tâchais ton lit, tu avais droit à te faire le tour de la cour avec ton drap à nettoyer ou sécher. Et ben puis voilà. Les bonnes sœurs, elles étaient tellement stupides dans leur manière de penser, dans leur manière d'être avec nous... c'était pas acceptable. Voilà, il fallait surtout pas dire un mot de travers parce que ben, ça finissait au mitard. C'était l'éloignement, la punition. Y avait un matelas par terre. T'avais la cuvette pour faire la toilette. T'avais pas de serviette. T'étais obligé de te laver comme ça, avec les mains et autres. T'avais rien pour t'occuper. T'étais là pour expier. Pour réfléchir au mal que tu avais fait, ou voilà. Après, tu avais le super mitard. Alors là, tu avais une couverture où tu dormais par terre, tu avais pas de seau, tu avais du pain dur ou des fois un petit peu de soupe ou autre, mais là, alors là, c'était sec. Hein. Il y a une fille qui a voulu s'en sauver, elle s'est cassée les deux talons, elles l'ont jamais mise à l'hôpital. Elle marchait sur les talons comme ça. Ah, je suis allée plusieurs fois au mitard. Mais je n'y restais pas toute la journée non plus, parce que j'allais en cours. Alors, j'étais au mitard pour dormir, et puis après, bah, j'allais en cours. Alors, le midi, bah, je retournais dans le mitard, et ça les obligeait à venir me porter le manger. Et puis après, je retournais au cours, et après le cours, bah, je remontais au mitard. Les bonnes sœurs s'engageaient à nous éduquer, au niveau de l'école, au niveau d'une profession, parce qu'elles étaient obligées. Il fallait qu'elles nous envoient à l'école. Et quand on revenait des cours du soir, vers 5 heures, on goûtait et il fallait se mettre tout de suite à la tâche. Jour Venise, tricot, broderie blanche. Alors on travaillait pour des entreprises comme Air France, le cadre noir de Saumur, les galeries Lafayette, et j'en passe. On n'a jamais eu une fiche de paye. Les bonnes sœurs, elles étaient payées. Nous, non. C'est elles qui signaient les contrats. C'est elles qui ont touché la retraite. Eh ben oui, nous, on est dans l'histoire, on n'a jamais rien eu. Tous les mois, mon père, il écrivait. Il demandait de mes nouvelles. Parce que moi, j'étais punie d'écrire. J'avais pas de papier, j'avais pas de timbre, j'avais pas de stylo. Toutes les lettres qui sont dans mon dossier, il y en a au moins, je sais pas, une cinquantaine. Aucune lettre ne m'est arrivée. Et quand je suis sortie toute seule à 19 ans. Je savais même pas où était la gare. J'avais juste le billet de train. J'avais ma tante, la sœur de mon père, qui me prenait chez elle. Il m'avait trouvé du travail à côté, dans l'usine à côté, comme dactylo à la comptabilité, à la compagnie des compteurs, à côté de Paris. Et puis, aujourd'hui, je suis à la retraite depuis 2007. Alors, 30 ans plus tard, on s'est rendu compte, à travers certaines diffusions, ou films, ou coupures de presse, que toutes on avait vécu la même chose. Les mêmes souffrances sous des châtiments qui étaient les mêmes. Alors on a décidé de porter plainte. Juste avant, on a créé l'association. L'essentiel, c'est qu'on retrouve notre honneur. On n'était pas des traînées, on était des gamines. Peut-être, on avait été peut-être un petit peu turbulentes, faire l'école buissonnière ou aller à la fête, ou alors se baigner alors qu'on aurait dû être à l'école, mais ça n'allait pas plus loin que ça. On n'était pas des traînées, on n'était pas des putes, parce que ça, c'est des mots que les bonnes sœurs employaient avec les plus jeunes. Ne regardez pas ces filles-là, ce sont des putes. C'est le langage des bonnes sœurs. Voilà.
C'était Les Diablesses, un reportage de Stéphanie Thomas avec Leïla Djitli, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Evelyne et à Marie-Christine. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi. Sur notre site, vous trouverez les références de ces premiers témoignages qui ont été publiés et diffusés pour la première fois en 2013 sur France Culture.
The smart money's on Harlem, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping in the carnival saloon. His invisible fiancé's in the mirror. And the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true there's nothing left for him down here. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time. Time that you love, and it's time, time, time. And they all pretend they're orphans, and their memory's like a train. You can see it getting smaller as it pulls away. And the things you can't remember tell the things you can't forget. The history puts a saint in every dream. She said she'd stick around until the bandages came off. But these mama's boys just don't know when to quit. And Matilda asked the sailors, all those dreams or all those prayers. So close your eyes, son, and this won't hurt a bit. Oh, it's time, time, time. It's time. Time, time, time that you love, and it's time, time, time. Well, things are pretty lousy for a calendar girl. The boys just dive right off the cars and splash into the street. And when they're on a roll, she pulls a razor from a boot, and a thousand pigeons fall around her feet. So put a candle in the window, and a kiss upon his lips. There's the dish outside the window, filled with rain. Just like a stranger with the weeds in your heart. And pay the fiddler off till I come back again. Oh, it's time, time, time. It's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time. Time.
It's time, time.